BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Raphaël Coudert, Good Evening Business.
Allez, bientôt 18h sur BFM Business. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble et en direct jusqu'à 19h. Et à la une ce soir, les résultats en demi-teinte des banques françaises. Société Générale et Crédit Agricole ont publié ce matin. BPCE vient de dévoiler ses résultats il y a quelques minutes également. Les activités de marché continuent de porter les bénéfices du secteur bancaire en France. C'est plus compliqué en revanche pour la banque de détail. On en parlera justement dans le journal bien évidemment. Et ensuite, juste après, avec Nicolas Namias, le président du directoire de BPCE. Le secteur automobile continue de tourner au ralenti. Les ventes de voitures ont baissé de 2% en juillet, selon les chiffres des constructeurs. Ça continue de stagner sur l'électrique, notamment. Décryptage à 18h40 avec un spécialiste du secteur, Alexandre Marian, directeur associé chez Alix Partners. Mais avant cela, c'est le journal tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence donc avec ces résultats mitigés des banques françaises après BNP Paribas la semaine dernière. Crédit Agricole et Société Générale viennent donc à leur tour de publier leurs résultats pour le deuxième trimestre. Un peu plus d'un milliard d'euros de bénéfices pour la Société Générale, 1,8 milliard pour CASA, l'entité cotée de Crédit Agricole. Mais ces résultats sont surtout portés par la banque de financement et d'investissement. Caroline Morisseau.
La banque de financement et d'investissement a fonctionné à plein régime dans ses activités. Le Crédit Agricole a vu ses revenus bondir d'un peu plus de 11% pour atteindre 1,7 milliard d'euros, du jamais vu sur un trimestre. Même tendance pour la Société Générale, où les résultats ont là aussi été tirés par les activités de marché et de financement aux grandes entreprises. De quoi compenser les difficultés de la banque de détail qui continue de souffrir. Les banques françaises n'arrivent pas à inverser la tendance. Contrairement à leurs concurrentes européennes, elles souffrent davantage de la hausse des taux qu'elles n'en profitent à cause des spécificités du marché français. Elles sont handicapées par leur stock de crédit à taux fixe ou encore les surcoûts liés au taux du livret A. Tout cela sur fond d'incertitudes qui pèsent sur l'activité. Alors que les crédits immobiliers en nette baisse par rapport à l'an dernier commençaient à repartir, la dissolution a provoqué à nouveau l'attentisme des clients. Dans ce contexte, la Société Générale a été contrainte de revoir à la baisse l'un de ses objectifs dans la banque de détail. De quoi déplaire au marché.
Voilà, Société Générale qui est sanctionnée aujourd'hui à la Bourse de Paris. Le titre perd plus de 8% après la publication de ses résultats. Et les résultats des banques, on va y revenir donc juste après ce journal avec notre invité, le président du directoire de BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui vient lui aussi de publier ses résultats du premier semestre il y a quelques instants. Dans le secteur automobile, là aussi beaucoup de publications aujourd'hui et elles confirment la tendance ressentie la semaine dernière. Le secteur tourne au ralenti. Toyota parvient, lui, à tirer son épingle du jeu, mais les constructeurs allemands BMW et Volkswagen sont à la peine. Justine Vassagne.
L'automobile allemande continue d'inquiéter. C'est BMW qui souffre le plus ce semestre avec un bénéfice net en chute de presque 9%. Volkswagen, numéro 2 mondial, voit de son côté son bénéfice net baisser de 4% sur un an. Sa marge opérationnelle ne pointe qu'à 6,3%. Elle pâtit de la faiblesse des ventes de ses deux marques les plus rentables, Porsche et Audi. Pour maintenir ses prévisions sur l'ensemble de l'année, il faudra faire des efforts considérables sur la réduction des coûts, prévient la marque déjà engagée dans un vaste plan de restructuration. Si Volkswagen et BMW, comme l'ensemble du secteur d'ailleurs, subissent le ralentissement du marché automobile mondial, ils sont aussi victimes de leur forte exposition en Chine. Ils y réalisent tous deux un tiers de leurs ventes et se voient aujourd'hui dépassés par la concurrence locale. Nos revenus ont subi l'impact d'une compétition plus importante et d'un moral faible des consommateurs chinois, explique par exemple BMW, qui craint, comme les autres constructeurs allemands, des représailles du gouvernement chinois après l'augmentation des droits de douane décidés par Bruxelles.
Justine Vassogne, on en vient à présent à cette chute impressionnante aujourd'hui à la Bourse de Paris. Worldline, le spécialiste des paiements, perd environ 12% aujourd'hui. Le groupe a annoncé une perte nette de 29 millions d'euros pour le premier semestre et il a fait un nouvel avertissement sur ses résultats, Mathieu Pechberti.
Oui, c'est le deuxième en quelques mois. Le premier, c'était à l'automne dernier. Worldline, c'est une société qui réalise des solutions solution de paiement pour les commerçants quand vous payez notamment en carte bleue. Ils sont donc très dépendants de la consommation. Ils sont présents dans la plupart des grands pays européens et ils sont surtout très présents en Allemagne, le pays européen qui souffre le plus avec une consommation qui continue de reculer, une récession. Et donc Worldline enchaîne les mauvaises performances. Le groupe a déjà abaissé ses prévisions de croissance donc à l'automne dernier. On était de 8-10%, on est passé à 6-7. Aujourd'hui, ils parlent des perspectives de croissance de 2 à 3%. Et ça inquiète très fortement les investisseurs qui voient bien que Worldline est mal positionné sur son secteur. Et en plus, par rapport à son concurrent, les investisseurs estiment que Worldline a un retard technologique qui risque de lui coûter cher dans les trimestres à venir.
Autre sujet, Mathieu, tant qu'on vous tient, autre sujet que vous suivez particulièrement pour BFM Business, Atos, qui est dans le rouge également au premier semestre, le groupe creuse ses pertes alors qu'il vient de mettre en place son plan de restructuration.
Oui, exactement. Alors, les résultats financiers étaient attendus dans le cadre de la restructuration. On est à quasiment 2 milliards de pertes, un chiffre d'affaires qui baisse de 3% et une marge opérationnelle tout petite, hein, seulement 2%. La grande question maintenant, c'est moins la restructuration financière qui a été bouclée, mais l'aspect opérationnel. Atos donne quand même des perspectives qui sont plus que moyenne sur les trimestres à venir. Et puis la semaine dernière, il y a 15 jours, il y a eu des perspectives négatives de ses deux principaux concurrents, Sopra Steria et surtout Capgemini, qui est leader en tout cas français du secteur. Et donc c'est quand même de mauvais augure si commercialement ça continue à dégringoler pour Atos. La question se pose de savoir s'il n'y aura pas une nouvelle restructuration financière l'année prochaine.
On suivra ça bien évidemment avec vous. Merci Mathieu Pechberti. Toujours dans la tech, ce bras de fer qui se poursuit chez Samsung entre la direction et les syndicats. Une grève illimitée a été lancée le 10 juillet dernier, mouvement totalement inédit dans l'histoire de ce géant sud-coréen. Aujourd'hui, une quinzaine de responsables syndicaux se sont rassemblés devant le domicile du PDG du groupe, Caroline Morisseau.
Les syndicats de Samsung ne décolèrent pas. Voilà des semaines qu'ils réclament des augmentations et un jour de congé supplémentaire. En vain, cette semaine, une séance de négociation qui a duré 3 jours s'est soldée par un échec. Le responsable du syndicat national de Samsung Electronics, ce qui représente près d'un cinquième des effectifs du groupe, accuse le PDG de ne pas respecter les syndicats.
En 2020, le président Lee Jae-yong a présenté des excuses publiques déclarant qu'il reconnaîtrait les droits fondamentaux des travailleurs, qu'il reconnaîtrait les syndicats et qu'il abolirait la gestion anti-syndicale. Mais qu'en est-il aujourd'hui ?
La direction de son côté semble imperturbable. Samsung est l'un des plus gros producteurs mondiaux de semi-conducteurs dont la demande monte en flèche avec le succès de l'IA générative. Le groupe vient d'annoncer un bénéfice trimestriel record, 15 fois supérieur à l'an dernier, à 7 milliards d'euros. Et la direction assure que cette grève ne perturbe pas sa production.
La situation continue de se dégrader en Nouvelle-Calédonie. La ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, est à Nouméa depuis hier. Elle rencontre aujourd'hui les acteurs économiques. Après 2 mois d'insurrection, le gouvernement vient de débloquer de nouvelles aides financières, des aides indispensables, estime David Guyenne, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. Il était l'invité ce matin de Good Morning Business.
Sans l'aide massive de l'État envers nos institutions calédoniennes, mais aussi directement envers les entreprises calédoniennes, nous ne nous en sortirons pas. Il faut trouver un nouveau modèle économique, mais au-delà de ça, dans l'urgence, il faut d'abord trouver la paix, le dialogue et un accord politique institutionnel. Tant qu'on n'aura pas cette étape, personne n'investira en Nouvelle-Calédonie, et surtout pas les entreprises. Les entreprises ont besoin de visibilité, les chefs d'entreprise ont besoin de confiance et de sécurité. Et donc, sans cet accord, pour lequel, encore une fois, les acteurs économiques sont prêts à contribuer, sans cet accord, on ne pourra pas franchir la prochaine étape qui est effectivement le nouveau modèle économique plus résilient et plus performant de la Nouvelle-Calédonie.
David Guyenne, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie. Dans l'actualité des entreprises également, Sanofi choisit l'Allemagne pour sa future usine de production d'insuline. Le géant pharmaceutique va investir un peu plus d'1 milliard d'euros sur son site proche de Francfort. Cette nouvelle installation remplacera celle existante à partir de 2029. Un investissement soutenu par le gouvernement allemand et un succès pour Berlin au détriment de la France qui espérait également décrocher ce projet. Un changement de règles en ce 1er août qui concerne les panneaux solaires résidentiels. Ils séduisent de plus en plus de Français, mais les règles vont devenir moins avantageuses à partir d'aujourd'hui. La prime à l'installation et le tarif de rachat de l'électricité solaire vont baisser. Mathilde Chaminade.
Il est désormais moins intéressant d'installer des panneaux solaires chez soi. La prime pour leur acquisition baisse de 16% aujourd'hui. Au total, elle a été divisée par 2 sur un an. Et ce n'est pas tout. Le tarif auquel EDF rachète l'électricité aux particuliers baisse de 2%. Ces changements sont liés à l'instabilité politique actuelle. Pour Audrey Zermati, directrice stratégie Défi.
Les baisses qui vont se produire à partir du 1er août sont la conséquence d'un décalage mécanique entre ce qui avait été prévu dans une planification stratégique par le gouvernement en 2020 et la réalité des installations solaires. On a beaucoup plus installé de panneaux solaires que ce qui avait été prévu. Et cette planification stratégique devait être remise à jour au mois de juillet 2024. Et avec la dissolution du gouvernement, il a été reporté.
De son côté, la Commission de régulation de l'énergie justifie ce coup de rabot par la baisse du prix des panneaux photovoltaïques et par la nécessité de réduire le déficit budgétaire lié à la transition énergétique. En 2 ans, le nombre de foyers français équipés de panneaux solaires a triplé. Ils sont désormais plus de 550 000. D'après EFI, l'enthousiasme des Français devrait se poursuivre malgré la baisse des aides.
La réponse de Sodexo face à cette petite musique qui monte. Le groupe qui gère la cantine des athlètes durant les Jeux Olympiques essuie de nombreuses critiques, tant sur la qualité que sur la quantité de la nourriture servie. Il s'agit de simples ajustements des premiers jours, répond Sodexo, qui se serait évidemment bien passé de cette mauvaise publicité. Hélène Cornet.
Une viande un peu trop cuite ou pas assez, des portions trop petites, des temps d'attente trop longs, les débuts ont été difficiles au village olympique. Plusieurs athlètes ont critiqué les repas servis, comme la star américaine de la gymnastique Simone Biles, qui trouve les plats un peu trop sains, entre guillemets. La directrice de la communication de Paris 2024 tient néanmoins à nuancer les plaintes, Anne Descamps.
Nous avons entendu beaucoup de commentaires, la plupart sont très positifs. Et quand on parle de nourriture, il y a aussi une question de goût. Juste pour vous dire que nous travaillons depuis des mois avec les comités nationaux olympiques sur le menu proposé aux athlètes. Ils ont tous été partagés avec eux avant les Jeux afin que nous puissions leur fournir les bons menus et la nourriture nécessaire à leur performance.
Car pas question de se louper pour Sodexo Live qui gère cette cantine de 3300 places ouvertes en continu, 40 000 couverts par jour. Il en va de son image et de sa renommée à travers le monde. L'entreprise dit être à l'écoute des athlètes et prendre leur avis très au sérieux. Elle a déjà augmenté les proportions et revu les ingrédients de son bar à salade.
Voilà, et ces Jeux Olympiques qui ont commencé depuis presque une semaine et ce sont au total 16 millions de touristes qui sont attendus dans la capitale. Des touristes qui ne se comportent pas forcément comme les touristes habituels. Conséquence, certains sites sont délaissés, comme les musées par exemple. C'est le cas du musée Grévin, explique son directeur général Yves Delhomo.
Pendant ces Jeux Olympiques, on constate effectivement une baisse importante des fréquentations sur un musée tel que le nôtre, et je crois que c'est l'ensemble des musées qui sont à la même enseigne aujourd'hui à Paris, entre 40 et 60% en moins de fréquentation pendant cette période, qu'on récupérera, j'espère, ce qui s'était passé à Londres également, c'est-à-dire dès septembre à Londres, il y a une affluence qui a été bien plus considérable. Et l'année suivante des Jeux Olympiques, Londres a connu une fréquentation exceptionnelle.
Voilà, et toujours à propos de ces Jeux Olympiques, les taxis parisiens demandent des compensations financières à l'État. Les professionnels se disent très déçus de leur niveau d'activité depuis le début des JO. La demande est au ralenti et les restrictions de circulation n'arrangent pas les choses. Les syndicats demandent au ministère la création d'un fonds de compensation financière sur l'ensemble de la période de privatisation des sites, c'est-à-dire de mars dernier à octobre prochain. Et puis, les naissances, toujours de moins en moins nombreuses en France. Sur les 6 premiers mois de l'année, la natalité baisse de 2,4% par rapport à la même période en 2023, selon l'INSEE. Malgré les efforts de l'exécutif en faveur d'un réarmement démographique, seuls 326 000 bébés ont vu le jour depuis janvier. Si cette tendance se poursuit sur le reste de l'année, le nombre de naissances pourrait atteindre un nouveau plus bas annuel en 2024. Voilà, 18h12 sur BFM Business. On va faire un point sur les marchés tout de suite. Et on vous retrouve Antoine Larrigaudry. Antoine, séance très difficile pour le CAC 40 aujourd'hui.
Pénible, oui, effectivement pénible pour un CAC 40 qui recule de plus de 2%. On est en repli de 2,2% très exactement. Puis alors on a dégringolé les supports techniques. On était au-delà des 7500 points sur l'ouverture de ce matin. On n'est plus qu'à 7364. Alors à noter quand même l'Euronext Tech Leaders, l'indice riche en valeurs technologiques, qui surperforme légèrement le marché mais qui n'échappe pas à la baisse, hein, moins 1,2%, puis baisse marquée. Le DAX à Francfort, moins 2,26, moins 2,21 pour l'Eurostock 50. Donc là, très clairement, ce qui a fait la tendance, ce sont les résultats d'entreprise et la plupart déçoivent. C'est notamment le cas du secteur bancaire, avec en particulier la Société Générale, qui est la banque la plus exposée au mouvement de marché. Et là, le titre perd 8,6% à 21,91 €. Vraiment, ce que les marchés retiennent, c'est cet avertissement sur l'activité banque de détail en France qui ne passe pas. Les autres performances du jour qui ont été publiées sont sanctionnées aussi. ArcelorMittal n'y échappe pas, moins 5%, 19,88 €. Malgré des chiffres de qualité, le titre était pas trop mal orienté en début de séance. En revanche, à l'inverse, sur le SBF 120, on a Aperam qui avance de 4% à 26,02 €. Là, après des chiffres plutôt convaincants, on a Avience avec son alliance qui perdure avec la Société Générale, qui signe la plus forte hausse du SBF 120, plus 9,6% à 6,72 €. En revanche, la plus forte baisse de l'indice large, c'est Worldline qui recule de 15,2% à 8,90 €. Vraiment, les mauvaises nouvelles en termes d'entreprise sont très largement sanctionnées ces derniers jours. Le CAC 40, moins 2,22%, 7364. Un coup d'œil sur Wall Street avec le Nasdaq qui perd 0,9% et moins 1,15 pour le Dow Jones. L'euro 1 dollar 0,786 et puis l'once d'or fin, pas très loin de son record absolu à 2502 $. Ce matin, on est à 2489.
Merci beaucoup Antoine Larrigaudry. Allez, restez avec nous sur BFM Business. Dans un instant, on va reparler de ces résultats du secteur bancaire avec Nicolas Namias, le président du directoire de BPCE.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Raphaël Coudert, Good Evening Business.
18h17 sur BFM Business et on va revenir sur les résultats du secteur bancaire après Société Générale et Crédit Agricole. Ce matin, c'est au tour de BPCE, le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, de publier ses résultats du premier semestre ce soir. Et pour en parler, nous sommes avec Nicolas Namias, le président du directoire de BPCE. Bonsoir. Alors les résultats, bonsoir, on va y venir bien évidemment dans un instant. Mais avant cela, il se trouve que vous êtes avec nous en direct depuis le Petit Palais à Paris, où BPCE a délocalisé ses équipes pendant toute la durée des Jeux. BPCE a très investi dans la réussite de ces Jeux Olympiques. Vous étiez le premier partenaire premium de Paris 2024 dès 2019. Est-ce que vous arrivez déjà à quantifier les retombées de ces investissements, Nicolas Namias ?
Bah, effectivement, Raphaël, bonsoir. On se retrouve ce soir depuis le Petit Palais. Le Petit Palais, c'est ce lieu formidable, hein, qui est en bas des Champs-Élysées, devant le Grand Palais qui accueille les compétitions d'escrime, en face du pont Alexandre III où démarrait hier le triathlon. Et c'est ce lieu qui devient le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Petit Palais du Sport. Le Petit Palais du Sport, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça devient la maison du groupe BPCE pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça veut dire que ça reste une maison ouverte, accessible, ouverte au grand public, et en même temps le lieu où toutes les marques du groupe BPCE invite leurs 30 000 invités. Nos 30 000 invités, ce sont nos clients, ce sont nos partenaires, ce sont nos collaborateurs, les dirigeants, les athlètes. Tout le monde se retrouve le temps des Jeux et des Jeux paralympiques au Petit Palais. C'est de là qu'on se parle ce soir.
Et alors, pourquoi est-ce que c'est si important pour le groupe Allez-y.
Alors, effectivement... Vous l'avez dit, nous sommes partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques depuis maintenant 6 ans. En fait, c'est depuis fin 2017 que nous avons commencé les discussions et nous avons signé ce formidable partenariat en 2018. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons été tout simplement la première entreprise à croire et à nous engager en faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous sommes devenus le premier partenaire premium, on pourrait dire les premiers à tout jamais. Ça, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous sommes une banque. Quelle est la mission d'une banque ? La mission d'une banque, c'est de rendre possible. C'est de rendre possible tous les projets, des plus simples aux plus ambitieux, aux plus fous. Et quel est le plus beau projet français de ces dernières années? C'est évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est pourquoi nous nous sommes engagés. Alors très concrètement, ça veut dire quoi cet engagement? D'abord, ça veut dire mobiliser toutes nos expertises pour la réussite des Jeux. Nos expertises en matière de financement, nous avons financé le village olympique. Ça veut dire mobiliser nos expertises auprès des entreprises. Nous sommes, groupe BPCE, la première banque des entreprises en France. Eh bien, plus de 1500 entreprises, c'est-à-dire près de 50% des entreprises qui travaillent sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, sont clientes du groupe BPCE. Et puis, ça veut dire, enfin, mobiliser nos expertises en matière de paiement. C'est très simple. L'ensemble des paiements de la billetterie des Jeux Olympiques et Paralympiques, plus de 9 millions de paiements, l'ensemble de ces paiements sont passés, ont été traités par les flux du groupe BPCE. C'est ça, s'engager. C'est engager toutes nos expertises. Et puis, ensuite, nous sommes un groupe territorial. Les banques populaires, les caisses d'épargne, c'est une formidable présence territoriale. Et donc, nous avons eu un souhait, faire vivre la magie des Jeux pour tous, sur tous les territoires, à travers le relais de la flamme. Cette flamme qui a été allumée il y a maintenant plus de 2 mois à Athènes et qui a traversé la Méditerranée sur le Belém Caisse d'Épargne, bateau du groupe BPCE. Cette flamme qui a quitté Brest pour rejoindre les Antilles sur le Maxi Trimaran Banque Populaire, bateau du groupe BPCE. Plus de 6 millions de Français se sont retrouvés autour de cette flamme. Et aujourd'hui, la magie des Jeux, eh bien, c'est celle que, évidemment, l'on ressent tous et que l'on ressent particulièrement dans notre groupe, avec nos athlètes. Vous savez que dans l'engagement qui est le nôtre, nous soutenons plus de 250 athlètes. Sur ces 250 athlètes, plus de 133 se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et aujourd'hui, je crois que la France, à ce stade, a 26 médailles. Sur les 26 médailles, 9 athlètes sont des athlètes soutenus par le groupe BPCE. C'est ça notre engagement. Et ça ne se termine pas ce soir, ça ne se termine pas avec les Jeux Olympiques ou Paralympiques, ça continuera, ce sera notre héritage, et notre héritage, c'est d'inscrire durablement BPCE comme la banque du sport en France.
Et on sent que ce sont des sujets qui vous passionnent particulièrement, Nicolas Namias. On en revient à ces résultats du premier semestre. Vous publiez un résultat net par du groupe en hausse de 12%. Le produit net bancaire est en hausse de 3% sur le deuxième trimestre. Ce sont surtout les activités financières qui portent ces résultats. Dans la banque de détail, c'est plus difficile de dégager des bénéfices.
Toutes les activités portent ces résultats. Vous l'avez dit, 12% de croissance du résultat net par du groupe au premier semestre 2024, c'est une vraie performance, 12% de croissance. Et nous renouons avec la croissance de nos revenus. Comme vous l'avez indiqué, ces derniers trimestres, depuis 18-24 mois, pesaient sur les revenus de la banque de proximité. Pourquoi ? Parce que l'augmentation des taux, en fait, conduisait à compresser la marge de la banque de proximité. Ce que nous voyons ce trimestre et ce semestre, et c'est une vraie satisfaction pour les banques populaires, les caisses d'épargne et le groupe BPCE, c'est un retour de la croissance, y compris dans la banque de proximité. Donc aujourd'hui, les banques populaires et les caisses d'épargne ont conquis, sur les 6 mois de l'année, plus de 450 000 nouveaux clients. Il y a une vraie dynamique commerciale. Sur les 6 premiers mois de l'année, les encours de dépôt, c'est-à-dire finalement la confiance que les clients ont dans les banques populaires et les caisses d'épargne, ces encours de dépôt ont cru de 3%. Et nous, les financements que nous faisons auprès de nos clients pour les accompagner dans leurs projets de vie, ces financements ont continué à croître à hauteur d'1% sur les 6 premiers mois. On a donc une vraie dynamique de la banque commerciale. Mais vous l'avez dit, effectivement, il y a également une très belle performance des métiers mondiaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les métiers de la banque de grande clientèle, ceux qui accompagnent les plus grandes entreprises, ceux qui accompagnent les plus grands investisseurs. Et là, on a une croissance du produit net bancaire de 7%, portée par tous les métiers. Et puis enfin, dernier métier mondial, celui de la gestion d'actifs. Vous le savez, nous sommes le deuxième gérant d'actifs en Europe. C'est-à-dire la gestion de l'épargne des investisseurs, des plus modestes comme des plus grands. Nous sommes le deuxième gérant européen. Et là, nous avons collecté depuis le début de l'année 17 milliards d'euros, ce qui conduit à une croissance du PNB de la gestion d'actifs de 10% au deuxième trimestre. Il y a donc une vraie performance financière. Et cette performance financière, elle est reconnue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelques jours, l'agence Standard & Poor's, et nous savons combien les agences de notation sont importantes dans la vie économique et financière des entreprises comme des États, eh bien l'agence Standard & Poor's a amélioré, a rehaussé la notation du groupe BPCE. Nous sommes désormais notés à plus de quoi ? Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui au meilleur niveau européen des notations des banques européennes. Vous savez, BPCE, c'est la quatrième banque de la zone euro. Aujourd'hui, nous avons la meilleure notation européenne et les quatre agences de notation qui nous suivent, qui nous notent, nous ont toutes accordé cette qualité de A+, c'est-à-dire la meilleure notation européenne.
Une question concernant la production de crédit, Nicolas Namias. Est-ce qu'il y a un effet lié à l'incertitude politique qui s'est installée depuis la dissolution ? Est-ce que vous observez que ça a entraîné une certaine forme d'attentisme ? C'est ce que disent certains de vos concurrents.
Alors, d'abord, encore une fois, la production, c'est essentiel. La production continue à croître. Je vous l'ai dit, hein, nos encours de crédit, dans un moment qui, vous le soulignez, est un moment parfois d'incertitude. Dans ce moment d'incertitude, nous continuons à croître. J'aime avoir une expression qui est de dire « le robinet du crédit est ouvert ». Lorsque nos clients ont un projet, le robinet du crédit est ouvert. Et donc, nos encours de crédit continuent à croître. Alors, effectivement, nous venons de passer quelques semaines d'incertitude et cela peut continuer. Mais moi, je veux penser que, de manière générale, nous vivons dans un moment qui peut créer des incertitudes, bien au-delà de l'actualité gouvernementale. Les grandes transitions que nous vivons en ce moment, la transition environnementale, la transition technologique, les transitions démographiques, les transitions géopolitiques, ces grandes transitions, elles sont fascinantes. Elles créent des opportunités pour beaucoup de nos clients. Mais n'oublions pas que pour le plus grand nombre, ces grandes transitions donne parfois un sentiment de perte de maîtrise. Et là, nous avons une mission fondamentale. Le groupe BPCE considère que notre mission, face à ce sentiment de perte de maîtrise, c'est de donner à chacun de nos clients un pouvoir d'agir, de lui redonner une capacité d'agir. Parce que si je devais résumer aujourd'hui notre mission, c'est d'accompagner nos clients pour que face à toutes ces transitions, ils abordent leur avenir en confiance. C'est ça notre mission. Nous sommes là à travers notre capacité à les financer et les encours de crédit augmentent. À travers notre capacité à gérer leur épargne. Je l'ai dit, nous avons collecté 17 milliards depuis le début de l'année. À travers notre capacité à les assurer, nous avons d'ailleurs une ambition, c'est de devenir le quatrième assureur en France. En synthèse, notre mission, c'est de permettre à chacun d'aborder son avenir en confiance. Et nous le faisons au quotidien pour nos 35 millions de clients.
Vous l'avez dit, 450 000 clients ont rejoint BPCE sur ce premier semestre. Justement, c'est l'un des objectifs de votre plan stratégique à horizon 2030 que vous avez présenté il y a quelques semaines. Faire de BPCE la banque d'un quart des Français. Comment on s'y prend pour aller chercher tous ces nouveaux clients ?
Oui. Alors, le plan que nous avons présenté il y a quelques semaines est résolument un plan de croissance et d'investissement. À partir de la mission que je viens de décrire il y a quelques instants. Et ensuite, nous voulons croître. Croître, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une croissance organique, à travers ce que nous faisons d'ores et déjà aujourd'hui, une croissance par acquisition, et puis une croissance par des nouveaux partenariats, car nous voulons être un groupe ouvert. Alors, ça veut dire que être la banque d'un Français sur quatre, aujourd'hui, quel est le point de départ ? Nous finançons aujourd'hui 22% de l'économie française. Il faudrait, et sur l'immobilier, 26%. Il faut réaliser que quand on se promène dans la rue, un Français sur quatre aujourd'hui a mené son projet de vie, c'est-à-dire son projet d'acquisition immobilière avec les banques du groupe BPCE, avec les banques populaires et les caisses d'épargne. Un Français sur quatre. Ça, c'est pour l'immobilier. Mais ça n'est pas encore pour l'ensemble des produits. Ça n'est pas encore pour l'épargne. Ça n'est pas encore pour l'assurance. Et c'est donc sur l'ensemble de ces solutions financières que nous voulons accompagner nos clients en devenant la banque d'un Français sur quatre. Et on est déjà en mouvement. Je disais qu'il y avait également la croissance externe. Vous savez qu'il y a quelques semaines, quelques mois, nous avons annoncé la plus grande opération d'acquisition de l'histoire du groupe BPCE en acquérant auprès de Société Générale une entreprise de leasing d'équipement qui fera, avec ce que nous faisons d'ores et déjà aujourd'hui, BPCE, le leader du financement d'équipements en Europe. C'est essentiel pour la vie des entreprises. Et puis, cette croissance, je disais qu'elle pouvait être partenariale, car je crois à un groupe ouvert. C'est pourquoi, par exemple, nous avons décidé d'avoir un partenariat avec Leroy Merlin, qui est évidemment le leader de son secteur, le leader français du bricolage, pour accompagner les Français dans leurs travaux de rénovation énergétique. Et c'est pourquoi nous avons décidé avec BNP Paribas également de créer un partenariat dans les paiements avec une ambition simple, devenir le leader français des paiements. C'est donc cette triple croissance organique en allant chercher des nouveaux clients, en leur proposant des nouveaux services, croissance par acquisition, ce que nous venons de faire dans le leasing d'équipement, et une croissance par partenariat, ce que nous faisons en étant un groupe ouvert. Ainsi, nous atteindrons nos ambitions de Vision 2030.
Merci beaucoup à Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business. Merci infiniment.
Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Culture IA à présent avec Anthony Morel, et on va parler de l'une des coqueluches de l'IA dans la Silicon Valley, une entreprise qui s'appelle Figure AI. Elle produit des robots incroyables qui sont capables d'apprendre n'importe quelle tâche en regardant faire les êtres humains.
BFM Business, Culture IA, Anthony Morel.
Un robot qui observe et qui imite. Voilà la révolution promise par Figure AI, une entreprise très en vue de la Silicon Valley qui a mis au point un appareil assez incroyable. Un humanoïde, alors que je vais vous décrire, hein, il a deux bras, deux jambes, une tête, sept caméras bourrées d'intelligence artificielle qui vont lui permettre de réaliser toutes sortes de choses. Dans les vidéos de démonstration, on le voit ranger la vaisselle, on le voit activer une machine à café. Alors vous allez me dire, comparé aux robots de Boston Dynamics qui font des saltos arrière, c'est pas incroyablement spectaculaire. C'est vrai, mais c'est un tout petit peu différent parce que ce robot-là, il n'a pas été programmé spécifiquement pour réaliser une tâche. Il a juste eu à regarder faire les êtres humains. On lui a montré des vidéos, il a décortiqué chacun des gestes, décomposé les actions, et à partir de là, il est capable de les reproduire. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'une fois qu'il a appris une nouvelle action, il va pouvoir l'enregistrer et l'envoyer à tous ses copains robots. C'est ce qu'on appelle le swarm learning, l'apprentissage en essaim. Si on se projette un peu, ça permet d'imaginer une nouvelle génération de robots qui pourraient potentiellement réaliser n'importe quelle tâche que les humains peuvent faire. Nettoyer les vitres, monter un meuble ou encore gérer des colis dans un entrepôt, ce qu'on appelle des humanoïdes à usage général, contrairement à la plupart des robots d'aujourd'hui qui sont hyper spécialisés sur une tâche. Et figurez-vous qu'en plus de tout ça, ce robot, il parle. Écoutez.
I see a red apple on a plate in the center of the table. A drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table.
Alors, on entendait, alors c'est en anglais, hein, mais je vais le traduire rapidement, il explique qu'il a une pomme devant lui, qu'il a un être humain, il décrit en fait son environnement. Et je voulais vraiment vous faire entendre sa voix parce que ce robot, on a intégré une brique supplémentaire, c'est ChatGPT, une intelligence artificielle générative qui lui permet de comprendre son environnement et d'interagir en langage naturel avec les êtres humains. Alors il a encore une armature métallique, hein, mais en lui mettant une peau en silicone, ce qui est tout à fait possible aujourd'hui, on se retrouve avec un quasi-humain comme on a dans des séries comme Westworld. Et là, on n'est pas seulement sur du prototype ou des démonstrations pour amuser la galerie. La première version de ce robot, elle vient d'être embauchée, si l'on peut dire, par BMW pour faire de la manutention dans les usines, pour décharger les palettes, pour porter des colis avant de faire des tâches un petit peu plus complexes sur les lignes d'assemblage. Il suffit en fait de lui donner un ordre vocal pour qu'il obéisse. Ce genre de robot va être évidemment très intéressant pour pallier le manque de main-d'œuvre dans des métiers en tension, mais à terme, on pourrait même le voir arriver à la maison, une sorte de majordome robotique.
Le marché automobile continue de tourner au ralenti en France. Les immatriculations de voitures neuves sont en baisse de 2% en juillet selon les chiffres des constructeurs. On en parle tout de suite dans Good Evening Business avec Alexandre Marian, spécialiste du secteur auto et directeur associé chez Alix Partners. Bonsoir Alexandre, comment on explique cette tendance sur le marché français? Pourquoi si peu de dynamisme?
Alors en fait, ce qu'on voit, c'est que le marché est en légère baisse sur le mois de juillet. Après, si on regarde sur l'année 2024, on est sur une hausse plutôt de l'ordre de 3,5%. C'est vrai que le marché semble ralentir, et notamment le deuxième semestre devrait être finalement en baisse légère pour nous amener à une année comparable à l'année dernière. Et en fait, au-delà de ça, il y a beaucoup de difficultés associées à la transition énergétique. Et on voit que les véhicules électriques à batterie continuent d'augmenter leur part de marché, mais c'est très léger, hein, c'est un point de pourcentage par rapport à l'année dernière. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que les véhicules hybrides, eux, semblent se tailler la part du lion de la transition énergétique.
Justement, oui, vous parliez de l'électrique. On observe une stagnation hein, des ventes de voitures électriques. L'exécutif qui ambitionnait pour 2024 une part de marché de 20% dans l'électrique, on en est loin. On est aux alentours de 17% depuis le début de l'année. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas, justement ?
Alors, en fait, c'est vraiment, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier facteur, c'est évidemment le prix. Un véhicule électrique coûte plus cher qu'un véhicule thermique et finalement, il y a pas mal de réticence à payer plus cher son véhicule. D'autant que, en fait, la pérennité des subventions n'est pas nécessairement assurée sur le long terme. Donc, il y a beaucoup de doutes sur le fait qu'on puisse faire cette transition très, très vite. Mais on voit que les prix baissent et que de nouveaux véhicules arrivent sur le marché et des véhicules notamment plus petits et plus abordables. Donc, on devrait voir au deuxième semestre ces nouveaux produits arriver dans nos concessions et se vendre plus. Dire que l'ambition de 20%, c'est vrai que ça va être très compliqué hein, l'année prochaine d'arriver à 20% de part de marché, mais ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même toujours dans une tendance de croissance ou de prise de part de marché.
Vous dites, on voit que les prix baissent. Est-ce que, selon vous, les constructeurs devraient davantage baisser leurs prix pour accélérer justement ce marché de l'électrique ?
Alors, pour accélérer ce marché de l'électrique, en effet, il faudrait que les prix baissent. Après, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et le premier, c'est le coût que les constructeurs payent pour leurs composants, leurs matières premières, le coût des batteries. Et donc, tout ça, c'est l'ensemble de l'écosystème hein, dont les prix et les coûts doivent baisser. Ce n'est pas uniquement les constructeurs qui doivent baisser leurs prix. Et c'est bien la difficulté auquel le marché est confronté actuellement. On a vu de par ces 2-3 dernières années avec la hausse des matières premières que les prix des batteries ne baissaient pas aussi vite que prévu et par conséquent on retrouve ces difficultés sur la baisse des prix.
Alexandre Marian, cette atonie du marché auto, on l'observe aussi au niveau mondial. Est-ce que selon vous ça peut redémarrer sur la deuxième partie de l'année ou alors les perspectives vont rester difficiles ?
Alors justement, il faut regarder région par région. En Europe, on est a priori le marché qui devrait être la plus faible croissance. On n'est pas en récession hein, sur l'ensemble de l'année. Hein. On devrait être dans une légère croissance pour l'Europe, dans une croissance un petit peu plus importante en Amérique du Nord et dans une croissance encore plus importante en Chine ou en Asie. Mais cela étant dit, c'est vrai qu'on a été habitué par le passé à des plus fortes croissances. Et en fait, il y a le contexte économique qui joue et il y a également, encore une fois, hein, la transition énergétique qui rend le marché automobile un petit peu plus... il faut savoir que structurellement, hein, le marché européen, il ne devrait pas retrouver les mêmes niveaux de vente qu'avant le Covid. Hein. On ne reviendra pas très très prochainement à des ordres de grandeur de 20 millions de véhicules vendus dans l'ensemble de l'Europe élargie. On devrait plutôt être à 18 à 19 millions, ce qui fait que structurellement, encore une fois, le marché européen ne retrouvera pas les niveaux d'avant la crise.
Et au niveau mondial, une nouvelle fois, ce coup de mou, on le voit, il pèse sur les résultats de Stellantis, notamment aux États-Unis. Les constructeurs allemands, on l'évoquait tout à l'heure dans le journal, sont à la peine en Chine. On le voit pour Volkswagen, pour BMW. Or, on le sait, c'est un marché très important pour eux. Est-ce que c'est inquiétant tout cela pour l'industrie automobile européenne ?
Alors, je pense que l'industrie automobile européenne et de manière générale, les constructeurs occidentaux ont beaucoup de challenges devant eux. Évidemment, ils sont conscients de la concurrence qui vient notamment d'Asie et de Chine et ils essayent d'y faire face en adaptant leur offre produit et en essayant de proposer des véhicules plus rapidement sur le marché. Donc aujourd'hui, il y a une grande inquiétude, c'est vrai, beaucoup de concurrence qui arrive, mais les jeux ne sont pas faits. Et si les constructeurs occidentaux et européens s'adaptent, ils sauront proposer une offre et être compétitifs sur le marché.
Il y a une grande concurrence qui arrive, notamment chinoise, les constructeurs chinois qui poursuivent leur montée en puissance en Europe. Est-ce qu'il y a un risque que l'arrivée de ces marques chinoises se fasse donc au détriment des marques françaises ?
Alors en fait, notre perception, c'est que la part de marché des marques chinoises aujourd'hui en Europe, elle est de l'ordre de 6%, et notamment de par un certain nombre de véhicules électriques qui ont été qui ont eu pas mal de succès parce qu'ils étaient très compétitifs en prix. On pense que cette part de marché va doubler d'ici à horizon 2030 et que en fait, même s'il y a des barrières douanières qui sont mises en place, les constructeurs chinois devraient s'installer en Europe pour justement se permettre de conquérir des parts de marché en Europe. Cela étant dit, le passage de 6 à 12%, ça correspond à peu près à la taille du marché qui va augmenter d'ici à 2030. Mmh. Et donc, les marques européennes ne devraient pas nécessairement perdre beaucoup de volume. Par contre, ils risquent de perdre des parts de marché et d'être mis encore plus sous pression.
Dernière question sur les barrières douanières qu'impose désormais l'Union européenne. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, ce que j'en pense, c'est que ça peut permettre aux constructeurs occidentaux et européens, notamment, de gagner un peu de temps et de s'adapter, de gagner un peu de temps pour s'adapter. Mais à terme, il faut s'attendre à ce que les constructeurs chinoises se développent en Europe pour justement contourner ces barrières douanières. Et donc, ça ne fait que repousser le problème. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, hein. Ça veut juste dire qu'il faut évoluer, il faut s'adapter et on a un petit peu de temps pour faire cela.
Merci beaucoup Alexandre Marian, spécialiste du secteur automobile et directeur associé chez Alix Partners. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business. L'immobilier, à présent avec Marie Cœur de Roy. Aujourd'hui, on s'adresse à ceux qui n'arrivent toujours pas à faire les travaux de rénovation qu'ils souhaitent faire. Une entreprise propose de tout prendre en charge, moyennant un morceau de votre logement.
Vendre un bout de son logement pour en financer les travaux, voilà ce que propose l'entreprise Vasco. Elle va acheter une part de votre bien pour vous permettre de récupérer l'argent nécessaire à la rénovation. Prenons l'exemple d'un bien valant 400 000 euros avec des travaux estimés à 40 000 euros, soit 10% de la valeur du logement. Pour vous apporter cette somme, Vasco va donc devenir propriétaire de 10% de votre bien. Enfin, 10% un peu plus en réalité, car Vasco prend des intérêts. Là, en l'occurrence, l'entreprise versera l'équivalent de 10% de la valeur du bien, mais elle possédera en réalité 13% de la propriété. Une propriété un peu particulière, celle d'une partie des murs, mais pas de l'usage. Et attention, il y a une date de fin à ce contrat, 10 ans. Dans les 10 ans, vous devrez avoir racheté la fameuse part et ce sera à la valeur du moment. Autrement dit, nos 13% de départ ne vaudront sans doute pas le même prix, beaucoup plus que les 40 000 euros de travaux financés au démarrage, d'autant que la rénovation de votre logement devrait aussi lui apporter plus de valeur et donc renchérir le prix de la part que vous aurez cédée. Il vaut donc mieux anticiper et surtout rembourser au plus vite. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'attendre l'échéance des 10 ans pour acheter cette part. À tout moment, avec expertise du prix, vous pourrez reprendre la pleine propriété. Quant à ceux qui voudraient à l'inverse aller encore au-delà, Vasco peut prolonger de 10 ans, mais attention, il faudra céder encore un peu plus de la propriété de votre bien.
Marie Cœur de Roy, 18h47, vous êtes bien sur BFM Business et on va revenir sur la situation au Proche-Orient après l'assassinat du chef politique du Hamas, David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, était l'invité d'Erwan Morris ce matin dans Good Morning Business.
Ah oui, la situation est explosive, évidemment, compte tenu de ce qui vient de se passer. Deux éliminations ciblées et pas n'importe lesquelles. L'une à Beyrouth, c'est un des proches d'Hassan Nasrallah, c'était un chef militaire de ce qu'on appelle le Conseil du Djihad, donc c'est la branche, enfin c'est la supervision armée du Hezbollah, qui a été revendiquée, celle-là. Et puis l'autre à Téhéran, d'Ismaël Haniyeh, numéro un du Hamas, qui n'a pas été revendiqué. Et donc la distinction est importante parce qu'effectivement, dans le cas, il y avait une réponse attendue après la tragédie qui est survenue sur le Golan, avec la douzaine d'enfants qui ont été tués par un tir attribué au Hezbollah. Et donc, la revendication contre un haut responsable du Hezbollah était logique. En revanche, effectivement, il y a le maintien d'une ambiguïté stratégique concernant l'élimination d'Ismaël Haniyeh, parce qu'elle a eu lieu sur le sol iranien, dans la capitale iranienne, à Téhéran, et même dans un lieu de résidence, normalement, des gardiens de la Révolution, qui est censé être très sécurisé. Et donc, les Israéliens ne souhaitent pas, évidemment, amplifier le risque d'un prétexte qui serait donné à l'Iran pour attaquer massivement directement l'État hébreu.
C'est un avertissement pour le Hamas, mais aussi une gifle à l'Iran, comme vous venez de le mentionner, David Rigoulet-Rose. L'Iran qui a été incapable d'assurer donc hier sa défense aérienne. La crédibilité de la République islamique d'Iran, elle est remise en question. Ça sera certainement pas sans conséquence.
Oui, ça peut pas être sans conséquence, justement, parce que, comme vous insistez sur l'affront, c'est même une humiliation, hein. Une double humiliation, parce qu'en plus, l'Iran était l'hôte de délégations étrangères, notamment des groupes pro-iraniens, pour célébrer, entre guillemets, pour participer à l'investiture du nouveau président Pezeshkian qui vient d'être élu. Et donc, à double titre, c'est un affront qui doit être lavé d'une manière ou d'une autre, et qui le sera certainement, c'est ça qui inquiète tout le monde, qui sera pas seulement par le biais des mandataires, comme classiquement ça a été le cas les dernières années et les derniers mois. Il y a eu une rupture stratégique qui est intervenue le 14 avril, quand l'Iran a décidé d'intervenir directement en visant l'État hébreu avec plusieurs centaines de missiles et de drones. D'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée iranienne a considéré qu'il y avait un changement d'équation, selon les termes de chef d'état-major des forces armées, Mohamed Hossein Bakeri, a dit à partir du 14 avril, il y a un changement d'équation parce que désormais, l'Iran peut prendre la décision de frapper directement et publiquement, effectivement, l'État hébreu, compte tenu du changement de paradigme qui s'est produit.
Est-ce que cela va réactiver aussi le Hezbollah et les Houthis sur la mer Rouge, ou bien l'Iran va, comme vous semblez le dire, agir lui-même ?
Les deux sont pas, les deux peuvent se concevoir de manière simultanée. Il semblerait que, d'après d'ailleurs des sources d'un article d'un journal américain relayant des informations en provenance de l'Iran, la décision aurait été prise par le guide suprême, effectivement, d'une opération ciblant, semble-t-il, des sites militaires en Israël même, de manière coordonnée, dans une préparation, effectivement une opération coordonnée avec les groupes des mandataires pro-iraniens, ceux qu'on appelle les proxys, dont le Hezbollah, les Houthis, effectivement, que vous mentionnez, ou d'autres. Ça n'exclut pas non plus des ciblages ou de personnel israélien à l'étranger, voire de bâtiments israéliens à l'étranger. Il y a des précédents, hein, comme l'attentat contre la résidence diplomatique à Buenos Aires, et une association israélienne dans les années 90. Donc il y a une multitude de sites potentiels, et ça explique d'ailleurs le discours du Premier ministre en disant que des jours difficiles attendaient le pays, parce qu'effectivement il y a une logique qui est à l'œuvre aujourd'hui qui pourrait se résumer par, d'une certaine manière, le principe de un pour un. C'est la loi du talion qui est en train de se développer dans la région.
Mais David Rigoulet-Rose, on entendait tout à l'heure sur BFM Business l'économiste Philippe Chalmin qui nous parlait du pétrole, qui nous disait que l'Iran a besoin d'exporter son pétrole et que le pouvoir de nuisance le plus important, il est donc dans les mains des Houthis. C'est une lecture de ce qui pourrait se passer.
Ah, c'est déjà le cas, hein, puisqu'il y a une perturbation des flux en mer Rouge qui est avérée. Alors officiellement, c'est en soutien, en solidarité avec le Hamas, effectivement, en visant des bateaux commerciaux, pétroliers ou vraqués, avec une diminution drastique, puisqu'il y a un détournement, en fait, des flux de navigation par l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, qui rallonge d'une dizaine de jours et qui, évidemment, est plus coûteux. Il y a l'idée de faire pression, effectivement, potentiellement, sur l'économie mondiale à partir du moment où ce serait systématisé. Ça explique d'ailleurs les opérations militaires menées par la marine américaine, parfois directement. Et puis la dernière opération israélienne qui avait fait le bombardement du port d'Odeida avec un incendie majeur, qui était un signalement stratégique de la part d'État hébreu. D'ailleurs, le ministre Yoav Gallant avait dit explicitement que c'était un feu qu'on pouvait voir dans tout le Moyen-Orient. Donc c'était un signal de ce que Israël était censé pouvoir faire, même très loin.
Dans le nord d'Israël, les mesures de protection d'installation sont prises. Dans des sites sensibles, comme les raffineries, des centrales électriques, des entreprises d'armement, qui ont été renforcées, de même que les préparatifs des hôpitaux pour accueillir d'éventuels blessés. On voit là, à travers ces éléments, que la tension est quand même à un très très haut niveau.
elle est à un très haut niveau, mais vous évoquez l'hôpital, il y a l'hôpital Rambam qui est à Haïfa, qui est déjà préparé depuis le mois de décembre. En réalité, c'est un immense parking qui a été aménagé en hôpital d'urgence, dans le cas où il y aurait effectivement le déclenchement d'une guerre ouverte avec notamment le Hezbollah. Et puis, il y a la question de la sécurisation des sites, alors civils et ou militaires, et on sait que le Hezbollah avait fait voler un drone, justement, il en avait fait un outil de communication sur la base, sur les bases militaires israéliennes pour montrer une potentielle vulnérabilité en cas de déclenchement d'un conflit. Donc oui, il y a une tension extrême, et puis la tension, elle se mesure aussi avec les vols de l'aviation civile qui ont été partiellement annulés, et notamment des grandes compagnies américaines, justement dans la perspective potentielle d'une déflagration.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier soir en urgence à la demande de l'Iran. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est alarmé d'une dangereuse escalade. On voit que le militaire, il prend complètement le pas sur le diplomatique. On a de plus en plus de mal à considérer l'aboutissement à un règlement politique et diplomatique.
Oui, c'est le problème. Mais c'est le problème depuis le début, de toute façon, parce qu'on est parti sur l'idée que le conflit ne déborderait pas Gaza. Et en réalité, il a déjà débordé. Alors certes, il a été contenu avec des pressions extrêmement fortes, notamment américaines, mais pas seulement. Et puis une rationalisation des acteurs qui, pour l'instant, ne veulent pas s'engager dans un engrenage incontrôlable. Mais on a vu avec ce qui s'est passé sur le Golan qu'un dérapage était possible. Un mauvais calcul, c'est ce qui semble avoir été le cas d'ailleurs, et que ce type de mauvais calcul peut ouvrir la porte effectivement à des processus incontrôlés. Dans le cas des logiques systémiques, c'est ce qui se passe, les paramètres sont censés être contrôlés par les acteurs, et puis parfois ils échappent à ces acteurs, et à ce moment-là, la situation devient très difficilement gérable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une logique belligène profonde, pour longtemps dans la région, et que c'est malheureusement, on voit mal comment l'option diplomatique pourrait à bref, sinon moyenne échéance, devenir pertinente.
D'autant que c'est donc le négociateur du Hamas qui a été éliminé hier, ce qui veut dire que Netanyahou ne veut pas négocier, que les négociations qui étaient en cours sur la libération des 140 otages israéliens, là, repart à zéro.
Oui, malheureusement, il n'y a plus 140 otages, hein. Il n'y en aurait que 111, et encore non confirmé pour le fait qu'ils soient vivants ou pas encore. Dans le cas de la problématique des otages, oui, il y a des critiques qui sont en train d'être formulées par le forum des familles des otages, en dénonçant le timing, alors même qu'il y avait une lueur d'espoir qui avait commencé à surgir et qui avait été d'ailleurs formulée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui parlait du fait qu'on était proche de la ligne d'arrivée, même s'il y avait encore des obstacles à lever. Et donc, il n'y avait jamais eu autant d'espoir sur la finalisation possible d'un cessez-le-feu qui aurait donné lieu à une négociation concernant les otages. Donc, c'est un reproche qui va être fait, effectivement, au Premier ministre, parce que là, ça, comme vous le soulignez, Ismaël Haniyeh était l'interlocuteur obligé des négociations. Il était à l'interface avec Yahya Sinwar dans l'enclave. Et donc, le fait d'avoir éliminé Ismaël Haniyeh, évidemment, constitue une lourde hypothèque sur la finalisation attendue.
Voilà, c'était David Rigoulet-Roz, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, ce matin dans Good Morning Business. Les programmes continuent sur BFM Business toute la soirée et vous retrouvez demain matin la matinale présentée par Erwan Morris dès 7h. Bonne soirée.
Good Evening Business, actu, expert, débat,